Section 3. Il règne dans le legs du docteur Grégory à ses filles une telle sollicitude paternelle que je ne saurais entreprendre de le critiquer sans témoigner d'abord mon respect et mon affection pour l'auteur. Mais ce petit ouvrage intéressant à plusieurs égards les personnes les plus estimables de mon sexe, je ne puis passer sous silence des raisonnements qui établissent d'une manière si spécieuse certaines opinions dont l'influence sur la morale et la conduite des femmes est vraiment funeste. Son style familier et facile convient parfaitement à la nature de ses avis, et l'affectueuse mélancolie que son respect pour la mémoire d'une épouse aimée répand dans tout l'ouvrage lui prête infiniment d'intérêt. Cependant, on trouve dans plusieurs passages une élégance concise, propre à détruire l'effet de cette sympathie. Et nous découvrons souvent l'auteur quand nous nous flattions de rencontrer uniquement le père. De plus, ayant deux objets en vue, il s'est rarement attaché à l'un ou à l'autre, car voulant tantôt rendre ses filles aimables, et craignant en même temps que le malheur ne fût le seul résultat des sentiments qu'il leur inspirait, s'il les tirait de la route battue de la vie, sans les mettre en état d'agir avec l'indépendance et la dignité convenables à ce rôle extraordinaire, il réprime l'épanchement naturel de ses pensées et n'ose leur conseiller directement une chose ou l'autre. Il leur révèle dans la préface une triste vérité, c'est qu'elles vont entendre, au moins une fois dans leur vie, les vrais sentiments d'un homme qui n'a point intérêt de les tromper. Sexe infortuné, que peut-on attendre de toi quand les êtres, dans la dépendance desquels la nature t'a mis, à ce qu'on prétend, pour ta raison et pour les secours dont tu as besoin, ont tous intérêt à te tromper. C'est là la source de ce mal qui a empoisonné toutes tes vertus et qui, desséchant dans leurs boutons tes facultés prêtes à s'épanouir, t'a rendu l'être faible que tu es. C'est cet intérêt à part, cet état insidieux de méfiance qui frappe les bases de la morale et divise le genre humain. Si l'amour a rendu quelques femmes malheureuses, combien davantage sont devenues des êtres nuls et inutiles par cette froide galanterie dont le langage, insignifiant ou traître, exprime toujours ce qu'on ne sent jamais. Et pourtant, cette attention pour notre sexe, à laquelle le cœur ne peut prendre aucune part, passe presque partout pour si digne de l'homme, si poli que, jusqu'à ce qu'une heureuse révolution organise très différemment la société, je crains bien qu'une conduite plus raisonnable et plus tendre ne puisse faire disparaître les vestiges de ces mœurs gothiques. J'ajouterai, pour faire disparaître la fausse dignité que l'imagination lui prête, qu'on voit régner cette galanterie dans les états les moins civilisés de l'Europe avec une extrême dissolution de mœurs. Dans le Portugal, par exemple, pays auquel je faisais particulièrement allusion, elle remplace les devoirs moraux les plus sacrés, car on assassine rarement un homme à côté d'une femme. Cet esprit chevaleresque désarme la main féroce, chargée d'un vol ou d'une vengeance, et si le coup ne peut être suspendu, la dame est suppliée d'excuser cette violence et de se retirer tranquillement, quoique peut-être couverte du sang de son époux ou de son frère. Je laisserai de côté pour le moment les idées du docteur Grégory sur la religion, parce que je me propose de consacrer un chapitre particulier à ce sujet. Je désapprouve entièrement ses remarques sur le maintien, quoique plusieurs, au premier abord, paraissent judicieuses, et ma raison, c'est qu'elles ont l'air, dès le commencement, de tendre à un mauvais but. Un bon cœur, un esprit cultivé, n'auront jamais besoin de ces règles affectées de décence. Le résultat de ces heureuses qualités sera quelque chose de plus substantiel que la simple apparence. Et le maintien qu'ils recommandent n'offrirait qu'une affectation désagréable et maladroite, supposer que l'intelligence qui doit inspirer les manières convenables ne s'y trouve pas. Mais le décorum, oui, le décorum, en effet, est la seule chose nécessaire. Le décorum doit supplanter la nature et bannir toute franchise, toute différence de caractère de mon sexe. Que résultera-t-il de bon, je vous prie, de ce conseil superficiel? Apparemment que l'auteur le donne pour sa commodité, car il est en effet beaucoup plus facile d'indiquer tel maintien ou tel autre que de mettre la raison à l'ouvrage, de déterminer nos vrais motifs d'agir. Mais enrichissez l'âme de connaissances utiles, fortifiez-la par leur emploi, et vous pourrez lui laisser sûrement régler le maintien. À quoi bon, par exemple, recommander la précaution suivante s'il faut altérer la candeur originelle de l'esprit par toutes sortes d'artifices? Et pourquoi embarrasser les grands motifs d'agir que nous fournissent également la raison et la religion avec de misérables tours de passe-passe pour se faire applaudir par de pauvres nigauds ébahis de l'adresse du jongleur? Ne montrez votre bon sens qu'avec précaution. On croira que vous voulez prendre des airs de supériorité sur le reste de la compagnie. Si par hasard vous avez quelque savoir, cachez-le soigneusement dans un profond secret, surtout aux hommes qui, en général, voient d'un œil d'envie et avec malignité une femme douée de grands talents naturels et d'un esprit cultivé. Si des hommes de mérite réel, comme ils l'observent après, sont au-dessus de cette petitesse, où est la nécessité de modeler le maintien de tout un sexe pour plaire aux fous de l'autre, ou à des hommes qui, sentant le peu de droits qu'ils ont à être respectés, comme individus, sont bien aises de se tenir dans les rangs de leur phalange? Dans le fait, je les trouve bien excusables, ces hommes, qui insistent sur leur supériorité, parce qu'ils n'ont que celle qu'une erreur générale attribue à leur sexe. On ne finirait pas de donner des règles pour le maintien s'il fallait toujours adopter le ton de la compagnie où l'on se trouve. Car la clé variant sans cesse, un dièse passera souvent pour une note naturelle. Certes, il aurait été plus sage de conseiller aux femmes de se perfectionner jusqu'à ce qu'elles s'élevassent au-dessus des petites considérations de la vanité, et de laisser ensuite l'opinion publique aller son train. Car où est le point de convenance où il faut s'arrêter ? La ligne étroite sur laquelle marchent la vertu et la vérité ne penche ni à droite ni à gauche, et ceux qui veulent suivre leur route peuvent sauter par-dessus plusieurs préjugés de décorum sans craindre de laisser derrière eux la véritable modestie. Purifiez le cœur, occupez la tête, et je vous promets qu'il n'y aura rien de choquant dans le maintien. Les airs du bon ton que tant de jeunes personnes des deux sexes sont si empressées à saisir me déplaisent toujours comme les attitudes gênées de quelques estampes modernes dont les figures sont copiées servilement et sans goût d'après l'antique. Il n'y a point là d'âme. Aucune des parties ne sont liées par ce qu'on pourrait appeler proprement caractère. Ce vernis de mode qui tient rarement de près au bon sens pour éblouir les têtes faibles, mais laisser la nature dans toute sa pureté, rarement le sage ne la trouvera pas assez belle. En outre, quand une femme a assez de bon sens, pour ne point afficher de prétention à des choses qu'elle entend trop peu, croyez que vous n'avez pas besoin de lui recommander de cacher sa lumière sous le boisseau. Laissez tout aller naturellement et tout ira bien. C'est ce même système de dissimulation répandu dans tout l'ouvrage que j'y vois avec peine et mépris. Suivant l'auteur, les femmes doivent toujours paraître ceci et cela. En vérité, la vertu pourrait l'apostropher comme Hamlet dans Shakespeare. « Il semble, je ne connais pas ton « il semble » est ce qui passe la simple montre. » Le même ton revient constamment, car dans un autre endroit, après avoir recommandé la délicatesse sans la désigner suffisamment, il ajoute « les hommes se plaindront de votre réserve. Ils vous assureront qu'un extérieur plus franc, plus ouvert, vous rendrait plus aimable. Mais, croyez-moi, ils ne sont point sincères quand ils vous le disent. Je reconnais qu'il est des occasions où cela pourrait vous rendre plus agréable comme maîtresse, mais vous en seriez toujours moins aimable comme épouse. Distinction importante à laquelle beaucoup de personnes de votre sexe ne font pas assez d'attention. Ce désir d'être toujours femme est précisément ce qui dégrade le sexe, excepté avec un amant. Je dois répéter une première observation en appuyant sur ce qu'elle insinue. Tout cela serait fort bien si elles n'étaient que des compagnes agréables ou raisonnables. Mais à cet égard, son avis ne s'accorde plus avec un passage qu'enfin j'ai le plaisir de citer en l'approuvant de tout mon cœur. L'opinion qu'une femme peut permettre toutes les libertés innocentes, pourvu que sa vertu reste en sûreté, est à la fois très indélicate et très dangereuse. Elle est devenue fatale à plusieurs personnes de votre sexe. Je suis parfaitement de son avis à cet égard. Un homme ou une femme de quelque sensibilité doit toujours chercher à convaincre l'objet chéri que ce sont les caresses de la personne et non du sexe qu'on reçoit et qu'on rend avec plaisir, et que le cœur est plutôt ému que les sens. Sans cette délicatesse naturelle, l'amour devient une satisfaction personnelle qui dégrade bientôt le caractère. Je porte encore plus loin cette manière de voir. La simple affection, sans qu'il soit question d'amour, autorise plusieurs caresses personnelles qui, prenant leur source dans un cœur innocent, anime le maintien. Mais je n'ai que du mépris pour ce commerce reçu de galanterie, de vanité, ou même de quelque chose de moins honnête. Qu'un homme presse la main d'une jolie femme, qu'il voit pour la première fois, en la conduisant dans sa voiture, pour peu qu'elle ait de délicatesse, elle regardera cette impertinente liberté comme une insulte, au lieu d'être flattée de cet hommage rendu à ses charmes. En effet, ce sont là les privilèges de l'amitié ou le tribut que le cœur paye à la vertu quand son éclat nous frappe subitement. Une pure sensibilité physique n'a point de droit aux bontés de l'affection. Jalouse de nourrir les affections de ce qui est aujourd'hui l'aliment de la vanité, je voudrais persuader à mon sexe d'agir d'après ces principes simples, qu'il mérite l'amour et il l'obtiendra, quoique peut-être ne lui fera-t-on jamais ces déclarations ridicules. Que le pouvoir d'une belle femme sur les cœurs des hommes, et surtout des hommes d'un mérite bien distingué, s'étend bien au-delà de ce qu'elle peut imaginer. J'ai déjà marqué d'une note de censure les idées étroites qu'il donne aux femmes, relativement à la duplicité, à la douceur propre à leur sexe, à la délicatesse de leur constitution. Car ce sont là les cercles dans lesquels ils tournent incessamment, avec plus de dignité que Rousseau, j'en conviens. Mais il arrive toujours au même point, et quiconque prendra la peine d'analyser ses opinions trouvera que les principes qui leur servent de base ne sont pas à beaucoup près aussi délicats que le système qu'il a bâti dessus. L'article des amusements est traité d'une manière trop rapide, mais toujours dans le même esprit. On verra, quand je traiterai de l'amitié, de l'amour et du mariage, que nous sommes bien éloignés d'être du même avis. Je ne me propose pas pour le moment d'anticiper sur les observations que me fourniront ces sujets importants. Je restreins mes remarques à leur teneur générale, à cette prudence domestique soupçonneuse, à ces vues bornées d'une affection partielle, sans lumière, qui exclut le bonheur et le perfectionnement en faisant des vœux et des efforts également vains pour nous sauver des peines et des erreurs, et qui, en gardant ainsi le cœur et l'âme, anéantissent aussi toute leur énergie. Certes, il vaut mieux être souvent trompé que de ne s'abandonner jamais à la douce confiance. Se trouver malheureuse en amour que de n'aimer jamais. Perdre la tendresse d'un époux que de mériter de perdre son estime. Il serait heureux pour le monde, et par conséquent pour les individus qui le composent, que toute cette vaine sollicitude pour y obtenir le bonheur, inutile dans ses efforts par cela même qu'elle les dirige d'après un plan trop rétréci, fut remplacé par un désir ardent et efficace de perfectionner l'intelligence. La sagesse est la principale chose, en conséquence, gagne la sagesse, et avec tous tes gains, gagne encore l'intelligence. Combien de temps encore, insensé que vous êtes, aimerez-vous la simplicité et haïrez-vous la science, dit la sagesse aux filles des hommes. Section 4. Je ne prétends point passer en revue tous les auteurs qui ont écrit sur les mœurs des femmes. À vrai dire, ce serait recommencer une tâche déjà remplie, car, en général, ils n'ont fait que se répéter. Mais, en attaquant la prérogative si vantée de l'homme, cette prérogative qu'on peut appeler le sceptre de fer de la tyrannie, le péché originel de nos despotes, je me déclare contre toute puissance établie sur des préjugés que leur antiquité ne rend pas plus respectable pour moi. Si la soumission exigée est fondée sur la justice, il ne reste plus d'appel à un tribunal supérieur, car Dieu est lui-même la justice par essence. Qu'on nous permette donc, en qualité d'enfant du même père, à moins que pour avoir été créé un peu plus tard, on ne nous trouve pas aussi légitimes, de raisonner avec nos aînés et de n'apprendre à nous soumettre qu'à l'autorité de la raison dont il faut qu'on nous fasse entendre bien distinctement la voix. Mais s'il est prouvé que ce trône d'où l'homme veut nous dominer impérieusement n'a pour base qu'un chaos de préjugés, sans principe d'ordre pour les lier ensemble, ou que, comme le monde des pauvres Indiens ignorants, il est placé sur un éléphant, porté sur une tortue, ou même sur les puissantes épaules d'un géant fils de la terre, assurément celles de nous qui oserons braver une auguste autorité reposant sur des bases si solides, peuvent le faire, en toute sûreté de conscience, sans manquer à aucun devoir et sans pécher contre l'ordre des choses. Puisque la raison élève l'homme au-dessus des brutes et que la mort, en nous frappant d'une main, nous ouvre de l'autre les portes du bonheur, convenons que ceux-là seulement peuvent s'assujettir à une obéissance aveugle qui n'ont point confiance en leur propre force. Pour être libre, il suffit de le vouloir. L'être en état de se gouverner lui-même n'a rien à craindre dans cette vie. Mais si quelque chose lui est plus cher que sa propre estime, il faudra qu'il en paye le prix jusqu'au dernier sol. La vertu, comme toutes les autres choses précieuses, doit être aimée uniquement pour elle-même, ou elle ne choisira point nos cœurs pour sanctuaire. Elle ne nous donnera pas cette paix qui passe ce que l'intelligence peut imaginer, tant que nous n'en ferons qu'un moyen de réputation et que nous ne la suivons qu'avec une exactitude pharisienne, que parce que l'apparence de l'honnêteté est la meilleure politique. Le plan de vie qui nous met en état d'emporter quelques connaissances et quelques vertus au-delà du tombeau est le mieux calculé pour assurer notre bonheur dès ici-bas. C'est ce qu'on ne saurait nier. Peu de gens, néanmoins, se conduisent d'après ce principe, quoique personne n'en conteste la vérité. Le plaisir présent ou le pouvoir actuel font disparaître devant eux cette sage persuasion. C'est pour la journée et non pour la vie que l'homme fait son marché avec le bonheur. Qu'il en ait peu, ah, qu'il en ait peu d'assez prévoyant ou courageux pour endurer un petit mal du moment afin d'en éviter un plus grand dans la suite. Les femmes, en particulier, dont la vertu ne porte que sur des préjugés vacillants, atteignent rarement à cette grandeur d'âme. De sorte que, devenues esclaves de leurs propres sensations, elles se laissent aisément subjuguer par celles des autres. Ainsi dégradées, leur raison nébuleuse ne voit plus de chaîne dès qu'elles sont brillantes. J'ai entendu avec indignation des femmes raisonner comme les hommes et s'engouer, avec tout l'entêtement de l'ignorance, de ces opinions qui les ravalent. J'éclaircirai mon assertion par quelques exemples. Madame Piozzi, qui répétait souvent par routine ce qu'elle ne comprenait pas, vient nous dire en grande phrase à la Johnson « Ne cherchez pas le bonheur dans la singularité. Craignez un raffinement de sagesse comme un écart de folie. » Elle s'adresse ensuite d'un ton dogmatique à un nouvel époux, et pour éclaircir ce pompeux exorde, elle ajoute « Je vous ai dit que la personne de votre femme vous deviendrait insensiblement moins agréable, mais je vous en conjure, ne lui laissez pas soupçonner ce refroidissement. » Une femme pardonne plutôt un affront fait à son esprit qu'à ses charmes, c'est tout ce que le monde sait et qu'aucune de nous ne contestera. Tous nos efforts, tous nos artifices sont employés à conquérir et à garder le cœur de l'homme. Et quelle mortification plus cruelle que de manquer ce but! Il n'est point de reproche, quelque piquant qu'il soit, de punition quelque sévère que vous la supposiez, qu'une femme de courage ne préfère à se voir négligée. Et si elle endure ce mépris sans se plaindre, cela prouve seulement qu'elle compte se dédommager du peu de soin de son époux en captivant l'attention d'autres hommes. Voilà des sentiments vraiment masculins. Tous nos artifices sont employés à conquérir et à garder le cœur de l'homme. Qu'en conclure? Si sa personne, et y eût-il jamais une femme, même en la supposant belle comme la Vénus de Médicis, qui n'ait éprouvé quelque dédain, si sa personne, dis-je, est négligée, elle s'en dédommagera en essayant de plaire à d'autres âmes. Belle morale! N'est-ce pas là insulter l'intelligence de tout mon sexe et ôter à sa vertu la base commune? Une femme doit savoir que sa personne peut être aussi agréable à l'homme devenu son mari qu'au même homme quand il était encore son amant. Et si elle s'offense d'être descendue de l'autel où il adorait en déesse, au rang d'une simple créature humaine, elle gémira aussi bien de la perte de son cœur ou de toute autre chose qui en vaudra aussi peu la peine. Ce manque de discernement, cette colère déraisonnable, prouve qu'il ne pourrait pas changer sa tendresse pour les charmes de sa femme en affection pour ses vertus ou en respect pour son intelligence. Tant que les femmes se conduisent d'après de pareilles opinions et les avouent, leur tête au moins mérite le mépris de ces hommes qui, n'insultant jamais leur charme, ont toujours dirigé leurs traits épigrammatiques contre l'intelligence des femmes. Et ce sont les sentiments de ces hommes polis, qui ne veulent pas avoir l'embarras de nous trouver une âme, que des femmes vaines adoptent étourdiment. Cependant, elles devraient savoir qu'il n'y a que cette raison, dont elles ne vengent point les insultes, qui puisse couvrir leur charme de cette sainte réserve, propre à rendre les affections humaines, toujours mêlées de quelques bas alliages, aussi stable que d'accord avec le grand but de l'existence, l'acquisition de la vertu. La baronne de Stahl tient le même langage que je viens de citer, mais encore avec plus d'enthousiasme. Ses lettres sur les ouvrages et le caractère de Jean-Jacques Rousseau sont tombées par hasard entre mes mains et ces sentiments, qui se trouvent par malheur être ceux de mon sexe, pourront servir de texte à quelques commentaires. Quoique Rousseau, dit-elle, ait tâché d'empêcher les femmes de se mêler des affaires publiques, de jouer un rôle éclatant, qu'il a su leur plaire en parlant d'elles. Ah, s'il a voulu les priver de quelques droits étrangers à leur sexe, comme il leur a rendu tous ceux qui lui appartiennent à jamais. S'il a voulu diminuer leur influence sur la délibération des hommes, comme il a consacré l'empire qu'elles ont sur leur bonheur. S'il les a fait descendre d'un trône usurpé, comme il les a replacés sur celui que la nature leur a destiné. S'il s'indigne contre elles lorsqu'elles veulent ressembler aux hommes, combien il les adore quand elles se présentent à lui avec les charmes, les faiblesses, les vertus et les torts de leur sexe. Enfin, il croit à l'amour. Sa grâce est obtenue. Qu'importe aux femmes que sa raison leur dispute l'empire quand son cœur leur est soumis. Qu'importe même à celles que la nature a douées d'une âme tendre qu'on leur ravisse le faux honneur de gouverner celui qu'elles aiment. Non, elles préfèrent de sentir sa supériorité, de l'admirer, de le croire mille fois au-dessus d'elles, de dépendre de lui parce qu'elles l'adorent. De se soumettre volontairement, d'abaisser tout à ses pieds, d'en donner elle-même l'exemple et de ne demander d'autre retour que celui du cœur dont, en aimant, elles se sont rendues dignes. Elle a raison, car jamais sensualiste n'a payé avec plus de ferveur son tribut d'adoration à l'autel de la beauté. En effet, son respect pour la personne était si pieux qu'excepté la vertu de chasteté, probablement on se doute pourquoi, il désirait uniquement la voir embellie par des charmes, des faiblesses et des erreurs. Il craignait que l'autorité de la raison ne flétrit les jeux folâtres de l'amour. Il voulait en maître avoir une esclave de sérail à mignarder. Mais il la voulait entièrement dépendante de sa raison, de sa bonté. Il ne cherchait point une compagne qu'il fût forcé d'estimer ou une amie à qui il pût confier le soin de l'éducation de ses enfants en cas que la mort les privât de leur père avant qu'il eût rempli cette tâche sacrée. Il refuse la raison à mon sexe, l'exclut des connaissances et l'écarte de la vérité. Mais il est sûr de son pardon parce qu'il admet la passion de l'amour. Il faudrait quelques franchises pour montrer l'obligation que lui ont les femmes d'admettre ainsi l'amour. Car il est clair qu'il ne l'admet que comme le délassement des hommes et un moyen de perpétuer l'espèce. Mais il en a parlé avec chaleur et ce chant magique a agi sur la sensibilité de sa jeune panégyriste. C'est ce qui lui a fait dire « Qu'importe aux femmes que sa raison lui dispute l'empire quand son cœur leur est soumis ?» Insensé, renoncer à l'empire, mais conserver du moins l'égalité. Au reste, si ces femmes ne voulaient qu'étendre leur sceptre, je les avertis qu'il ne faut pas s'en fier uniquement à leur charme, car quoique la beauté puisse conquérir un cœur, elle ne peut le garder, même tant qu'elle reste dans tout son éclat, si l'esprit ne lui prête du moins quelque grâce. Quand les femmes seront suffisamment éclairées pour voir en grand leurs véritables intérêts, je suis persuadé qu'elles résigneront facilement toutes les prérogatives de l'amour, surtout si elles ne sont pas réciproques, même en les considérant comme des prérogatives durables, pour la satisfaction paisible et la tendre confiance qu'inspire l'amitié ou une estime habituelle. Elles ne prendront point d'airs insolents avant le mariage. Elles ne seront point après des esclaves abjectes, mais essayant de se conduire dans les deux situations comme des créatures raisonnables, elles ne descendront point d'un trône sur un marchepied. Madame Genlis a écrit plusieurs ouvrages intéressants pour les enfants, et ses lettres sur l'éducation présentent plusieurs vues utiles dont les parents judicieux ne manqueront pas de se servir. Mais ses vues sont étroites et ses préjugés aussi déraisonnables que tenaces. Je laisserai de côté sa véhémente argumentation en faveur de l'éternité des peines à venir, parce que je rougis de penser qu'un être humain puisse prendre avec chaleur la défense d'une pareille cause. Je me contenterai de faire quelques remarques sur sa manière absurde de faire supplanter la raison par l'autorité paternelle, car elle inculque partout non seulement une soumission aveugle aux parents, mais à l'opinion du monde. Elle nous raconte l'histoire d'un jeune homme engagé par le désir exprès de son père à une jeune personne d'une grande fortune. Elle la perd avant que son mariage puisse se réaliser et se trouve sa ressource dans le monde. Le père met en œuvre les artifices les plus infâmes pour détacher son fils de celle qu'il aime. Le jeune homme découvre les abominables moyens employés par un père qui n'écoute que la voix de l'intérêt. Sensible seulement à celle de l'amour et de l'honneur, il remplit sa promesse. Le résultat est qu'il tombe dans la misère la plus affreuse pour s'être marié contre le gré de son père. Sur quelle base peuvent porter la religion et la morale quand on exclut ainsi la justice? Elle représente avec la même invraisemblance et dans le même style une jeune personne accomplie, aussi prête à donner sa main au premier venu dont sa maman lui fera l'éloge qu'à épouser un jeune homme de son propre choix. En un mot, sans éprouver le plus léger mouvement de passion, parce que, dit-elle, une fille bien élevée est trop occupée pour trouver le temps d'avoir de l'amour. Peut-on faire quelque cas d'un système d'éducation qui insulte la raison et la nature? On trouve dans les écrits de Madame Genlis une foule d'idées pareilles, entremêlées néanmoins de sentiments qui honorent sa tête et son cœur. Cependant, sa religion a un alliage de tant de superstitions et sa morale de ce qu'on appelle la science du monde que je ne laisserai lire ses ouvrages à une jeune personne qu'autant que je pourrai en causer après avec elle et lui faire voir les contradictions dont ils sont pleins. Les lettres de Mrs. Chapone sont écrites avec tant de bon sens, de modestie, sans affectation, et contiennent tant d'observations utiles que je n'en parle que pour payer à l'auteur un tribut de respect. Je ne saurais, j'en conviens, être toujours de son avis, mais je l'estime toujours. Ces mots d'estime et de respect rappellent à ma mémoire Madame Macaulay, sans contredit la femme du talent le plus distingué que l'Angleterre ait jamais produite. Et cependant, ses contemporains ingrats ont laissé mourir sans s'acquitter envers elle de son vivant, ni même après sa mort. Mais la postérité sera plus équitable. Elle se souviendra que Catherine Macaulay fut un exemple des profondes connaissances que peut acquérir une femme, quoi qu'en disent les détracteurs de mon sexe, qui les supposent incompatibles avec la faiblesse de nos organes. On ne voit rien de féminin dans ses écrits. Le style en est, comme les idées, nerveux et clair. Je ne veux pourtant pas l'appeler une intelligence mâle, mais je soutiens qu'elle fut une tête forte et que son jugement, fruit mûr d'une profonde méditation, prouva qu'une femme peut acquérir du jugement dans toute l'étendue qu'on a donnée à ce mot. Douée de plus de pénétration que de sagacité, de plus d'intelligence que d'imagination, elle écrit avec une énergie sobre, une logique serrée. Et pourtant la sympathie, la bienveillance prête à ses sentiments un intérêt et à ses syllogismes une chaleur qui force d'en peser le poids. Quand je pris la plume pour tracer ces aperçus, je me promis d'avance l'approbation de Madame Macaulay avec un peu de cette vivacité que la tâche de ma vie a été de réprimer. Mais je ne tardais pas à apprendre, avec la douleur de l'espérance trompée et le deuil d'une perte cruelle, que cette femme, l'honneur de mon sexe, n'était plus. Section 5. On ne peut, en passant en revue les différents ouvrages sur l'éducation, se dispenser de parler des lettres du Lord Chesterfield. Non que je me propose d'analyser son système inhumain et immoral, ou seulement d'y glaner quelques remarques utiles, qui se rencontrent par hasard dans cette frivole correspondance. Mon unique objet est de faire quelques réflexions sur le but avoué de cet ouvrage. L'art d'acquérir de bonne heure la connaissance du monde, art, je ne crains point de l'assurer, qui dévore secrètement, comme le ver dans le bouton, nos facultés morales, prêtes à s'épanouir, et tourne en poison la sève généreuse qui devrait monter avec vigueur dans le jeune individu pour lui inspirer des affections tendres et de grandes résolutions. Chaque chose a sa saison, dit l'homme sage. Demande-t-on les fruits de l'automne au mois générateur du printemps? Mais c'est de la déclamation, et mon projet est de raisonner avec ces sages précepteurs du genre humain qui, au lieu de cultiver le jugement, sèment des préjugés et endurcissent les cœurs qu'une expérience graduelle aurait seulement tempérés. Une connaissance prématurée des défauts de l'humanité, ou ce qu'on appelle la science du monde, est, dans mon opinion, le moyen le plus sûr de resserrer le cœur et de glacer cette ardeur naturelle qui produit les grands talents et les grandes vertus. Car essayer d'obtenir les fruits de l'expérience avant que le jeune plant ait poussé ses feuilles, c'est seulement épuiser sa force et l'empêcher de prendre une forme nouvelle, tout comme on altère celle des métaux quand on dérange la cohésion attractive de leurs parties. Dites-moi, vous qui avez étudié l'esprit humain, n'est-ce pas un étrange moyen de fixer les principes que d'en montrer aux jeunes gens le peu de stabilité? Comment les fortifier par l'habitude quand l'exemple en aura prouvé la fausseté? Quelle nécessité d'étouffer ainsi l'ardeur de la jeunesse et de couper jusqu'au vif l'exubérance de l'imagination? Cette précaution stérilisante peut, à la vérité, préserver des excès, mais, à coup sûr, elle arrête les progrès des vertus et des lumières. Le soupçon, en montrant des écueils à chaque pas, empêche les excursions du génie et de la bienveillance, et longtemps avant le soir calme et tranquille de la vie, elle serait privée de ses charmes les plus attrayants si la prudence nous faisait une loi de la passer dans la contemplation. Un jeune homme élevé avec des amis domestiques, l'esprit meublé des connaissances spéculatives que la lecture, les réflexions naturelles et les sentiments spontanés peuvent lui procurer, ce jeune homme, dis-je, entre dans le monde avec des espérances mensongères. Il semble pourtant que c'est la marche de la nature, et en morale, comme dans les ouvrages de goût, nous devons observer religieusement ses indications, ne pas prétendre à la guider, mais la suivre obséquieusement. Peu de personnes, dans le monde, agissent par principe. Les sentiments actuels et les habitudes premières sont les deux grandes sources de leurs actions. Mais comment parviendra-t-on à modérer l'effet de ces sentiments et à renforcer ces habitudes? Si l'on montre aux jeunes gens le monde précisément tel qu'il est, avant qu'ils soient devenus indulgents par l'expérience acquise du monde et de leur propre cœur. Leurs semblables ne leur paraîtront point des créatures fragiles, condamnés comme eux à lutter contre les infirmités humaines, montrant quelquefois le côté brillant et d'autres fois le côté sombre de leur caractère, excitant tour à tour des sentiments d'amour et d'aversion. Non, ils les regarderont comme des bêtes féroces, jusqu'à ce que l'humanité, la sociabilité, soit entièrement déracinée de leur cœur. Dans l'usage de la vie, au contraire, nous nous découvrons graduellement, comme nous découvrons graduellement les imperfections de notre nature, nous découvrons aussi des vertus et différentes circonstances nous attachent à nos semblables. Lorsque mêlés avec eux, nous voyons ensemble des objets que la connaissance précoce et non naturelle du monde ne nous aurait jamais montrés. Nous voyons la folie devenir le vice par des gradations presque insensibles et la pitié se mêle au blâme. Mais si le monstre hideux se présente tout à coup à nos regards, la crainte et l'aversion nous rendant plus sévères que l'homme ne doit l'être, un zèle aveugle peut nous faire usurper le caractère de la toute-puissance et vouer tous nos frères à la réprobation, sans songer qu'il nous est impossible de lire dans les cœurs et que nous portons en nous-mêmes les semences cachées des mêmes vices. J'ai déjà remarqué que nous attendons de l'instruction plus que la seule instruction ne saurait produire, car au lieu de préparer les jeunes gens à combattre avec dignité les maux de la vie, à acquérir la sagesse et la vertu par l'exercice de leurs propres facultés, on accumule précepte sur précepte et l'on demande une obéissance passive quand il faudrait convaincre la raison. Supposons par exemple qu'une jeune personne, dans la première ardeur de l'amitié, déifie l'objet de son affection. Quel mal peut-il résulter de cette méprise enthousiaste? Peut-être est-il nécessaire que la vertu paraisse d'abord sous une forme humaine pour s'imprimer dans le jeune cœur. Le modèle idéal qu'un esprit plus mûr et plus exalté pourrait envisager et former pour lui-même échapperait à leur regard. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Demandait le plus sage des hommes. Il est naturel que la jeunesse orne de toutes les bonnes qualités le premier objet de ses affections et que l'émulation produite par l'ignorance, ou pour parler plus proprement par l'inexpérience, entraîne au dehors l'esprit capable d'un pareil attachement. Quand, par la suite du temps, on voit que la perfection n'est point à la portée des hommes, la vertu, considérée abstractivement, en devient plus belle et la sagesse plus sublime. L'admiration alors fait place à l'amitié proprement dite, parce qu'elle est cimentée par l'estime, et l'être marche de lui-même, ne dépendant uniquement que du ciel, pour ce zèle ardent de perfection qui brille toujours dans une âme élevée. Cette science, l'homme doit l'acquérir par l'exercice de ses propres facultés. Elle est certainement le fruit heureux de l'espérance trompée, car celui qui se plut à répandre le bonheur et à montrer la commisération pour de faibles créatures qui doivent apprendre à le connaître, celui-là, dis-je, ne nous donna pas de bonnes inclinations, pour qu'elles ne fussent que des feux follets propres à nous tourmenter. Nos arbres poussent des feuilles en abondance, sans qu'on essaie d'unir forcément les empreintes majestueuses du temps aux grâces de la jeunesse. On attend patiemment qu'ils aient jeté de profondes racines et bravé plusieurs tempêtes. Doit-on donc traiter avec moins de respect l'esprit qui, en proportion de sa dignité, s'avance plus lentement vers la perfection? Pour raisonner d'après l'analogie, chaque chose autour de nous est dans un état progressif, et lorsque la connaissance fâcheuse de la vie en produit presque la satiété, quand nous découvrons par le cours naturel des choses qu'ici-bas tout est vanité, nous touchons à la catastrophe terrible du drame dont nous sommes les acteurs. Les jours de l'espérance et de l'activité sont passés, et les occasions que les premières scènes de la vie nous ont fournies pour avancer dans l'échelle de l'intelligence doivent être bientôt calculées. À cette époque, la connaissance de la futilité de la vie, ou même plutôt si elle est obtenue par l'expérience, est très utile parce qu'elle est naturelle. Mais quand on montre à un être fragile les vices et les folies des âmes afin de le prémunir contre les chances ordinaires de la vie par le sacrifice de son propre cœur, ce n'est pas être trop morose que de prétendre que cette sagesse du monde est en contraste avec le plus noble fruit de la piété et de l'expérience. Je vais hasarder un paradoxe et montrer mon opinion tout entière. Si les hommes étaient uniquement nés pour parcourir le cercle de la vie à la mort, il serait sage de prendre la route que la prévoyance pourrait nous suggérer pour nous rendre heureux. La modération, dans chaque entreprise, serait alors la suprême sagesse, et le voluptueux circonspect jouirait d'un certain degré de contentement, quoiqu'il ne s'attachât ni à cultiver son intelligence, ni à maintenir en lui la pureté du cœur. En supposant que tout périt avec nous, la prudence serait la vraie sagesse, ou, pour parler plus explicitement, elle nous procurerait la plus grande somme de bonheur dans la teneur entière de la vie. Mais la science poussée au-delà des convenances de cette même vie serait une calamité. Pourquoi altérerions-nous notre santé par une assiduité constante à l'étude? Le plaisir exalté que procurent les travaux intellectuels équivaudrait à peine aux heures de langueur qui leur succèdent, surtout s'il faut faire entrer dans ce calcul les doutes et les erreurs qui obscurcissent toutes nos recherches. L'inquiétude et la vanité en sont le terme ordinaire, car la chose que nous désirons particulièrement découvrir fuit devant nous comme l'horizon à mesure que nous avançons. L'ignorant, au contraire, ressemble à l'enfant et suppose qu'en marchant droit devant soi, l'on arriverait au point de l'horizon où, selon lui, la terre et le ciel se touchent. Cependant, trompés comme nous le sommes dans nos recherches, l'esprit se fortifie par l'exercice, assez peut-être pour devenir susceptible de recevoir dans un autre point de l'existence les réponses aux questions inquiètes qu'il fait lorsque, d'un œil faible, l'intelligence flotte autour des effets visibles pour en découvrir la cause secrète. Les passions aussi, ces vents de la vie, seraient, sinon pernicieuses, du moins sans utilité, dans la supposition où la substance qui compose notre être pensant, après que nous en aurions vainement fait usage, deviendrait uniquement le soutien de la vie végétale et se bornerait à alimenter un chou ou à fleurir dans une rose. Les appétits seraient proportionnés aux besoins terrestres et produiraient un bonheur plus constant et plus modéré. Mais quand les facultés de l'âme, qui ne sont pas d'une grande utilité dans ce monde et qui probablement contrarient nos jouissances animales, lors même que par la conscience de notre dignité nous nous glorifions de les posséder, ces facultés, dis-je, prouvent que la vie n'est qu'une éducation, état d'enfance auquel nos espérances les plus chères ne doivent pas être sacrifiées. J'en conclus qu'il faut que nous ayons une idée précise du but auquel nous désirons d'arriver par l'éducation. Car une infinité de personnes qui font profession de croire fermement à l'immortalité de l'âme contrarient leurs croyances par leurs actions. Si, vous embarrassant peu de l'avenir, vous regardez comme le point le plus important de s'assurer l'aisance et la propriété sur la terre, vous agissez prudemment en donnant à votre fils la connaissance anticipée des faiblesses de sa nature. Vous ne pouvez pas, il est vrai, en faire un Inkle. Mais n'imaginez pas qu'il fasse plus que la loi n'ordonne. Ni qu'ayant conçu de très bonne heure une basse opinion de la nature humaine, il cherche à s'élever au-dessus du vulgaire. Il pourra éviter les vices grossiers parce que l'honnêteté est la meilleure politesse, mais il ne visera jamais aux grandes vertus. l'exemple des écrivains et des artistes, peut éclaircir cette observation. Je me permettrai donc de mettre en question si ce qu'on nous a donné comme un axiome amoral n'est pas plutôt une assertion dogmatique de quelques hommes qui ont froidement étudié le genre humain dans les livres, et je dis, contradictoirement à leur opinion, que la régulation des passions n'est pas toujours sagesse. Il semble au contraire que si les hommes ont plus de jugement et plus de courage que les femmes, c'est parce qu'ils donnent un libre cours aux grandes passions et que, s'égarant plus fréquemment, leur esprit profite de leurs écarts. S'ils peuvent donc arriver par l'exercice de leur propre raison à quelques principes invariables, ils doivent probablement en remercier la force de leur passion qui s'est nourrie par de faux aperçus de la vie et qui leur a fait franchir des limites qu'ils n'auraient jamais dépassées. Mais si, dans le commencement de la vie, on nous en montre froidement toutes les scènes, s'il nous est donné de voir toutes les choses sous leur vraie couleur, comment les passions acquerront-elles une force suffisante pour le développement des facultés? Je me suppose maintenant sur une éminence d'où je découvre le monde dépouillé de tous ses charmes faux et séducteurs. La pureté de l'atmosphère me permet de voir chaque objet dans son vrai point de vue. Mon cœur est tranquille, je suis calme comme l'aspect d'un beau matin, quand les nuages se déroulant peu à peu dévoilent silencieusement les beautés de la nature rafraîchies par le repos. Sous quel jour le monde s'offre-t-il à mes regards? Je frotte mes yeux et je crois sortir d'un songe agréable. Je vois les enfants des hommes poursuivre des ombres fugitives et épuiser soucieusement leur force à nourrir des passions qui n'ont point d'objet corrélatif. Si toutefois l'excès de ces impulsions aveugles, caressées par ce guide infidèle mais constamment suivi, l'imagination, n'a pas pour but de rendre plus sages les âmes à courte vue, en les préparant pour quelque autre part, ou, ce qui revient au même, quand ils poursuivent un bien présent qui n'existe pas. Après avoir considéré les objets sous ce point de vue, il n'est pas très extravagant d'imaginer que ce monde est un théâtre sur lequel se joue une pantomime continuelle pour l'amusement des êtres supérieurs. Quel divertissement pour eux de voir l'ambitieux courir après un fantôme et poursuivre la fragile renommée dans la bouche du canon qui va l'anéantir. Car quand on a perdu le sentiment de l'existence, peu nous importe de monter dans un tourbillon ou de descendre dans la pluie. Mais si l'on renforçait la vue de l'ambitieux, si on lui montrait le sentier épineux de l'élévation qui, tel qu'un sable mouvant, se dérobe sous ses pieds et trompe ses espérances au moment où il croit les réaliser, ne céderait-il pas à d'autres l'honneur d'en être les dupes? Ne travaillerait-il pas à s'assurer du moment présent, quoique d'après la nature de sa constitution, il ne dût pas trouver facile d'arrêter le torrent fugitif? C'est ainsi que la crainte et l'espérance nous traînent en esclaves. Mais quelque vain que soient les projets de l'ambitieux, il s'agit souvent pour quelque chose de plus substantiel que la renommée, qui est en effet la plus bizarre de toutes les erreurs. Quoi, se refuser jusqu'aux moindres satisfactions pour être applaudi quand on ne sera plus? Que sert de disputer sur l'immortalité de l'âme si cette noble passion ne doit pas élever l'homme au-dessus des êtres qui coexistent avec lui? Et l'amour? Quelle scène comique ne produit-il pas? Les tours de pantalon n'ont rien d'aussi plaisant. Quoi de plus ridicule que de voir un homme orner un objet de charmes imaginaires et tomber ensuite aux pieds de l'idole qu'il s'est fait lui-même? Mais il s'ensuivrait les plus sérieuses conséquences si l'on dépouillait l'homme de cette portion de bonheur que l'être suprême lui a indubitablement promise en l'appelant à l'existence. Toutes les intentions de la vie auraient-elles été mieux remplies si l'homme avait éprouvé seulement ce qu'on appelle l'amour physique? L'objet n'étant plus vu à travers le milieu de l'imagination, sa présence ne réduirait-elle pas bientôt la passion à un simple appétit si la réflexion qui distingue si éminemment l'homme n'en renforçait l'effet et n'en faisait un instrument propre à l'élever au-dessus de cette écume terrestre en lui apprenant à aimer le centre de toute perfection, ce centre dont la sagesse se montre plus évidemment dans les œuvres de la nature, à mesure que la raison est plus éclairée, plus exaltée par la contemplation et par cet amour de l'ordre que produisent les efforts de la passion. On peut démontrer que l'habitude de réfléchir et les lumières qu'on retire des passions sont également utiles, quoique l'objet en soit généralement fallacieux. Car on les verrait dans le même sens si elle n'était pas rehaussée par la passion dominante que l'auteur de tout bien a mise en nous pour fortifier les facultés de chaque individu et l'instruire par l'expérience, comme un enfant qui fait certaines choses sans pouvoir en dire la raison. Mais je descends de mon apogée et, mêlé avec mes semblables, je me sens entraîné dans le torrent commun à tous. L'ambition, l'amour, l'espérance et la crainte exercent leur pouvoir magique, quoique nous soyons bien convaincus par la raison que leurs promesses les plus séduisantes ne sont que des rêves imposteurs. Mais si la froide main de la circonspection proscrit tout sentiment généreux avant qu'il ait acquis un caractère de permanence ou déterminé quelque habitude, pouvons-nous attendre autre chose qu'une prudence égoïste et une raison à peine supérieure à l'instinct? Quiconque a lu d'un œil philosophique dans Swift l'insipide description des Yahoos et des Whims peut-il s'empêcher de reconnaître combien il est inutile de déprécier les passions ou de vouloir que les hommes restent tranquilles? Il faut que la jeunesse agisse, car si elle avait l'expérience de l'âge mûr, elle serait plus propre à la mort qu'à la vie. Ces vertus, siégeant dans la tête plutôt que dans le cœur, ne produiraient rien de grand, et son intelligence préparée pour ce monde ne prouverait point dans ses nobles élans qu'elle a des droits à un meilleur. Il est d'ailleurs impossible de donner aux jeunes gens une idée juste de la vie. Il faut qu'ils se soient débattus avec leurs propres passions avant qu'ils puissent évaluer la force de la tentation qui a conduit leurs frères dans le vice. Ceux qui entrent dans la vie et ceux qui la quittent voient le monde sous des points de vue si différents qu'il est rare qu'ils puissent penser de même, à moins que la raison non développée des premiers ne se soit jamais hasardée à voler de ses propres ailes. Quand nous entendons parler de quelque crime audacieux, il se présente à nous couvert de turpitude et excite notre indignation. Mais l'œil, accoutumé graduellement à en pénétrer la profondeur, ne peut se défendre d'un sentiment de compassion. Un spectateur immobile ne voit pas le monde. Il faut se mêler dans la foule et sentir comme les autres sentent avant de juger leurs sentiments. En un mot, si nous voulons vivre dans le monde, devenir plus sages et meilleurs, et ne pas nous borner uniquement à jouir des bienfaits de la vie, il faut que la connaissance des autres soit liée à la nôtre. Tout autre mode d'instruction ne fait qu'endurcir le cœur et troubler l'entendement. On me dira peut-être que l'instruction acquise de cette manière est quelquefois trop coûteuse. Je répondrai que je doute très fort qu'aucun genre de connaissance puisse s'obtenir sans travail et sans inquiétude. Et ceux qui veulent épargner l'un et l'autre à leurs enfants ne doivent pas se plaindre s'ils ne sont ni sages ni vertueux. Ils ne visent qu'à les rendre prudents, et la prudence dans les premiers temps de la vie n'est que le métier circonspect d'un amour-propre ignorant. J'ai remarqué que les jeunes gens, à l'éducation desquels on a donné une attention particulière, sont très superficiels, suffisants, et ne plaisent sous aucun rapport, parce qu'ils n'ont ni la chaleur confiante de la jeunesse, ni la froide profondeur de l'âge. Cette manière d'être non naturelle, je ne puis m'empêcher de l'imputer surtout à cette instruction hâtive et prématurée qui les conduit à répéter présomptueusement les notions non digérées qu'ils ont adoptées de confiance. C'est donc par l'éducation soignée qu'ils ont reçue qu'ils sont toute leur vie esclaves des préjugés. L'exercice de l'esprit, comme celui du corps, est d'abord fatigant, au point que plusieurs trouvent fort commode que d'autres travaillent et pensent pour eux. Une observation que j'ai souvent eu l'occasion de faire éclaircira mon idée. Lorsque dans une société d'étrangers ou de personnes de connaissance, quelqu'un d'un mérite médiocre soutient une opinion avec chaleur, j'ose affirmer, car je l'ai très souvent vérifié, que c'est un préjugé. Ces échos ont un grand respect pour l'intelligence de quelques parents ou de quelques amis, et sans comprendre pleinement les opinions qu'ils sont si impatients de débiter, ils les soutiennent avec un degré d'opiniâtreté qui doit surprendre la personne même à qui elles appartiennent. Je sais qu'il est de mode à présent de respecter les préjugés, et que lorsque quelqu'un s'avise de les heurter de front sans autre motif que celui de la raison et de l'humanité, on lui demande gravement s'il croit que nos ancêtres étaient des fous. « Non, répondrai-je, les opinions, quelles qu'elles soient, ont sans doute d'abord été fondées en raison. » Mais le plus souvent, elles ont eu pour base un motif de localité plutôt qu'un principe essentiel et raisonnable dans tous les temps. les anciennes opinions prennent la forme des préjugés quand on les adopte paresseusement et à cause de l'âge qui leur a donné un aspect vénérable, quoique le motif en ait cessé ou qu'on ne puisse plus en rendre compte. Pourquoi serions-nous attachés à des préjugés uniquement parce qu'ils sont préjugés? Un préjugé est une persuasion folle et obstinée dont on ne peut rendre raison. Car du moment où l'on peut donner la raison d'une opinion, elle cesse d'être un préjugé, quoiqu'elle puisse être une erreur de jugement. Or, devons-nous caresser les opinions uniquement pour nous défier de la raison? Cette manière de raisonner, si on peut l'appeler ainsi, me rappelle ce qu'on dit vulgairement de la raison des femmes. Car les femmes déclarent quelquefois qu'elles aiment ou qu'elles croient certaines choses parce qu'elles les aiment ou les croient. Il est impossible de converser sur aucune matière avec des gens qui ne savent employer que ce style affirmatif et négatif. Avant de les amener à un point d'où vous puissiez partir pour raisonner avec eux, vous êtes obligé de revenir aux principes simples et antérieurs, aux préjugés établis, et vous n'en êtes guère plus avancé, car on vous oppose l'assertion philosophique que certains principes sont aussi faux dans la pratique que vrais dans la spéculation. On peut même augurer que la raison a semé quelques doutes, car il arrive généralement que les gens soutiennent leurs opinions avec le plus de chaleur au moment où ils commencent à en douter. Ils cherchent à sortir de leurs doutes par la conviction de leurs adversaires, et ils se mettent en colère quand on les leur renvoie et qu'on trompe l'espoir où ils étaient de s'en affranchir. Il est de fait que les âmes attendent de l'éducation ce que l'éducation ne peut pas leur donner. Un père ou un instituteur judicieux peuvent fortifier le corps et préparer les instruments avec lesquels l'enfant doit acquérir des connaissances. Mais c'est à lui seul à les convertir en miel substantiel. Chercher à rendre un jeune homme sage par l'expérience d'autrui est une chose presque aussi absurde que de vouloir qu'il puisse augmenter ses forces corporelles par la seule vue ou par le récit de l'exercice fait par d'autres. La plupart de ces enfants, dont la conduite a été scrupuleusement surveillée, deviennent les plus faibles des hommes parce que leurs instructeurs se bornent à jeter dans leur esprit quelques notions qui n'ont d'autre base que leur autorité. Et quand ces instructeurs sont aimés et respectés de leurs élèves, l'entendement de ces derniers est gêné dans ses opérations et incertain dans ses progrès. Toute l'éducation se réduit donc à placer les enfants dans les positions les plus propres à leur instruction. Cependant, après avoir entassé précepte sur précepte, sans permettre à l'enfant de former lui-même son propre jugement, les parents espèrent qu'à la lueur de cette lumière empruntée, il se conduira comme s'il s'était éclairé lui-même, et qu'en entrant dans la vie, il saura ce qu'ils sont eux-mêmes en la quittant. Ils ne font pas attention que l'arbre et même le corps humain n'acquièrent la force des fibres que lorsqu'ils sont parvenus à leur entier développement. Il semble qu'il y ait quelque analogie entre cette marche et celle de l'esprit. Les sens et l'imagination donnent la forme au caractère dans les temps de l'enfance et de la jeunesse. À mesure qu'on avance dans la vie, l'entendement fortifie les premières impressions de la sensibilité jusqu'à ce que la vertu, s'élevant plutôt par la conviction intime de la raison que par l'impulsion du cœur, établissent la moralité sur une base contre laquelle viennent se briser les orages des passions. J'espère qu'on ne se méprendra pas sur le sens de mes expressions quand je dis que la religion n'aurait pas cette double énergie si elle était fondée sur la raison. Quels effets pourrait-on en attendre en y voyant que l'asile de la faiblesse timorée ou le refuge du fanatisme et non un principe gouvernant de conduite tiré de la connaissance de soi-même et d'une opinion raisonnable sur les attributs de la divinité. La religion qui consiste à échauffer les affections et à exalter l'imagination n'est que la partie poétique de la religion, et elle peut procurer du plaisir à un individu sans le rendre un être plus moral. Elle peut remplacer les poursuites mondaines, les recherches du bonheur dans cette vie. Cependant, ne nous dissimulons pas qu'alors elle rétrécit le cœur au lieu de nous l'agrandir. Et pourtant, il faudrait aimer la vertu pour sa sublimité, son excellence en elle-même, et non parce qu'elle nous procure des avantages et nous sauve des malheurs. C'est la seule manière de l'envisager qui puisse donner des résultats dignes d'elle. Les hommes n'acquerront jamais une moralité suffisante tant qu'ils se borneront à bâtir des châteaux en l'air dans un monde à venir, pour compenser les peines qu'ils trouvent dans celui-ci. Jamais vous ne ferez rien d'eux tant qu'ils détourneront leurs pensées de leurs devoirs relatifs vers les chimères religieuses. La vaine et incohérente sagesse des hommes qui, oubliant tout à la fois à servir Dieu et Mammon, essaient d'associer les contradictoires, gâte la plupart des situations de cette vie sur lesquelles elle nous abuse. Voulez-vous faire votre fils riche? Suivez un cap. Plus honnête dans vos vues, n'êtes-vous jaloux que de le rendre vertueux? Suivez-en un différent. Mais n'imaginez pas pouvoir sauter à volonté d'un sentier à l'autre sans perdre votre chemin.